Man. Nous sommes au phare, on va y rester. Ce soir, démarrage du festival avec l'autre continent dont vous nous avez ramené cet extrait sonore.
C'est vrai qu'il fait assez beau aujourd'hui. Ce matin, on pouvait craindre la pluie, magnifique. Mais bon, le soleil a fini par se montrer.
Magnifique.
Je n'en ai guère envie.
Tu prendras bien un peu de vodka.
Marc Bellman, donc un extrait, court extrait de cette répétition générale de l'autre continent que l'on découvre au phare tout à l'heure à 21h. C'est un spectacle du collectif d'artistes Le Club des Arts, écrit, composé par Sébastien Grosset. Un spectacle annoncé comme un concert théâtre qui mélange, là on l'entend, deux univers très très différents.
Ah bah oui, alors là, la première chose qui frappe, c'est le thème de Laurence d'Arabie, le film, une musique composée par Maurice Jarre, est jouée ici au piano par deux musiciens qui sont sur le plateau. Et puis par-dessus, il y a ces quatre comédiens qui lisent certaines répliques de l'oncle Vania de Tchekhov. C'est donc deux univers a priori que rien ne réunit et que pourtant Sébastien Grosset fait cohabiter sur une seule partition en utilisant le système de la citation fragmentaire.
Mais je sais pas pourquoi, je sens comme ça, là, à vue de nez, à vue d'oreille, tous les bons vieux ingrédients postmodernes. On rejoue des scènes, on les déconstruit, on fait pareil avec la musique, le tout pour le simple plaisir de quoi déconstruire, de critiquer les héritages qui nous traversent.
Alors Sébastien Grosset a une formation de philosophe quand même, ça faut le savoir. Donc il a un goût effectivement pour le postmodernisme, la déconstruction, mais il va beaucoup plus loin que ça en réalité avec ce spectacle. Parce que petit à petit, eh bien effectivement, au fil de la déconstruction du texte de Tchekhov et de la musique de Maurice Jarre, il y a une esthétique, je dirais, une contemporaine, une musique contemporaine qui apparaît. Et puis ce qui émerge, cette musique, ce son, cet environnement sonore qui est créé, de même que le spectacle lui-même, est valable en lui-même. Et non uniquement en tant que critique que du passé. Et puis, en une heure et demie de spectacle, on assiste donc à un double mouvement croisé. Alors, celui de la déconstruction, évidemment, et puis celui de la construction. Et ce qui se construit, l'univers sonore, passionnant, à mon sens, qui naît devant nous, sous nos oreilles, sous nos yeux, vient clairement des vestiges du passé, de Tchekhov et de la musique de Laurence d'Arabie. Si bien que la transformation de notre héritage culturel, à la fois Tchekhov et puis la musique de Maurice Jarre, et avec toutes les images que ça génère, cette transformation de l'héritage culturel se fait devant nous. Et des éléments totalement hétérogènes trouvent une homogénéité dans une œuvre nouvelle. Donc on est bien loin de la simple critique du passé ou de la simple déconstruction.
Mais alors est-ce que cette bascule de forme passée vers une forme actuelle est assise sur une trame? Est-ce qu'il y a une histoire, plus simplement?
Ah oui, il y a une histoire. Et c'est ça qui est encore plus étonnant, parce que finalement, cette histoire, c'est l'œuvre qui émerge. Et c'est la trame d'une transmission d'un texte sur quatre générations d'oncles et de neveux. Le neveu, à la mort de son oncle, doit continuer une pièce de théâtre en fait, qui lui est transmise avec des annotations pour dire comment il doit continuer à écrire. Et le spectacle auquel on assiste est, d'une certaine manière, présenté par le représentant contemporain de cette lignée. Alors, il présente les actes 1 à 3, écrits par ses aïeuls, et il fait ça avec une certaine maladresse, mais une fierté quand même, une certaine colère aussi, un certain lyrisme, enfin ça dépend des diverses phases par lesquelles il passe en présentant ce spectacle. Mais lorsqu'il arrive à l'acte 4, qu'il est censé avoir écrit, tout d'un coup il a moins d'enthousiasme. Et il avoue qu'il n'y est pas parvenu, et puis toute sa vie s'écroule face à nous, devant nous. Et c'est de cet échec que naît la véritable fusion entre les répliques de l'oncle Vania, de Tchekhov, et la musique de Laurence d'Arabie. Malgré lui, l'époque de son arrière-grand-oncle qui vivait du temps de Tchekhov, et l'époque de son oncle vivant dans les années 60, Laurence d'Arabie est tournée en 1962, toutes ces deux époques se retrouvent en lui-même, aujourd'hui, mais sous une forme inédite.
Alors la question de base qui reste, comment Sébastien Grosset a-t-il eu l'idée de rapprocher ces deux univers aussi lointains l'un de l'autre? C'est ce qu'il vous a confié hier à la sortie de la répétition générale à laquelle vous avez assisté, Marc.
Alors c'est pas venu comme une idée. Et c'est vraiment tombé du ciel. Les répliques de Tchekhov, c'était à l'origine... En fait, il s'agit d'une réduction de Oncle Vania à ses répliques les plus banales. Et c'est même pas moi qui ai fait ce travail, c'est un des deux metteurs en scène de la paix.
Julien Basler.
Julien Basler, ouais, qui avait fait ça dans un tout autre cadre. C'est un boulot qu'on faisait en commun pour une recherche dramaturgique autour de Tchekhov. Et lui, il avait fait cette proposition de gommer tout le contenu de la pièce et de garder que ça. Ça m'avait tout de suite séduit. J'avais tout de suite trouvé très très beau d'avoir juste ce déroulement de ces répliques, parce qu'il y avait comme toute une pièce en creux. D'abord on dit où est le docteur, il est au jardin, et puis après il est où, j'en sais rien. Après il est où le docteur, il est parti, puis on sait que tout ce docteur qu'on n'a jamais vu, il a eu toute une vie comme ça à côté. Alors je trouvais ça très charmant et très très assez triste, mais assez beau comme ça. Ça me plaisait beaucoup. Et je voulais faire quelque chose avec, et puis j'ai tourné très longtemps avec ces répliques dans ma tête, en me rendant compte qu'il me manquait quelque chose, sans pouvoir savoir quoi. Il y avait quelque chose de avec cette histoire d'enfermement, ça tournait beaucoup en rond, ça m'intéressait, mais trop quand même. Il me manquait un contrepoint. Et puis un jour, je travaillais sur ces trucs-là, je les relisais, j'essayais de les agencer sans trop savoir où j'allais, dans un café, et quelqu'un a passé la musique de Laurence d'Arabie. Et c'est, enfin quelqu'un le bistrot quoi, et c'était une évidence, parce que j'étais justement en train de lire une de ces phrases qui dit dire qu'en Afrique en ce moment il doit faire une chaleur infernale, et poum, la musique est sortie, et ça m'a apparu comme une évidence. Il y avait à la fois un contrepoint complet, parce que c'est les grands espaces opposés à un quotidien enfermé, puis en même temps, de la même manière que réduire Tchekhov à ses répliques, ça en fait une espèce de caricature, parce que c'est vraiment les phrases tchekhoviennes. D'un autre côté, le film de Laurence d'Arabie et sa musique, c'est une caricature de l'Afrique, des déserts, et c'est une musique sur l'Arabie, mais composée dans une gamme complètement tonale, occidentale. C'est toute une imagerie comme ça. Et en plus, ça avait l'avantage, autant je pouvais faire de la musique avec ces phrases, en les assemblant, autant une musique tellement signifiante, parce que rattachée au cinéma, à des images, à des choses, je pouvais la traiter comme du texte, en apportant sa signification avec elle. Voilà.
Et là, on en vient au cœur de votre travail, de ce travail, L'autre continent, c'est le rapport entre le texte et la musique. J'ai lu quelque part que vous vouliez abolir la distinction entre texte et musique.
Évidemment, c'est impossible d'abolir la différence entre... Donc c'est déjà une option intéressante, parce que c'est pas réalisable. Après, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que la musique et le texte, la parole, ont des régimes temporels qui sont en fait très différents. La musique écrite, elle se chiffre. Dans un 4-4, il y a 4 noirs. Si la noire est à 60, il y a 4 secondes. On est structuré comme ça. Et la parole... C'est pas possible. Ou alors on fait du parler rythmé ou du Sprechgesang ou du... Ça me fascine de pouvoir tenter de mêler. C'est presque de la science-fiction. On peut mettre deux régimes temporels différents en même temps et en essayant de faire en sorte qu'ils se fassent pas violence l'un à l'autre.
Ce que vous dites sur les deux temporalités, celle du texte et celle de la musique, c'est vrai que c'est très frappant, parce que au tout début de la pièce, lorsque on assiste encore à un spectacle construit, quand il y a ces phrases très quotidiennes de l'oncle Vania qui sont répétées par les comédiens, ça prend un effet comique. Au bout d'un moment, la répétition du texte, peut-être à cause du sens que les mots portent, il y a un effet comique. Alors que dans la musique, pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est très très frappant dans votre spectacle, de saisir tout d'un coup, d'entendre la différence des temporalités.
Oui, vous avez raison. Moi, je le renie pas le comique, même si c'est sans doute la pièce qui en a le moins de tout ce que j'ai fait.
C'est très sombre, mais malgré tout, même ce personnage qui... arrive à une destruction interne complète à la fin, dans le drame, il m'a fait rire.
Bah, tant mieux. Tant mieux si on conserve cette charge comique. Pour moi, ça reste quelque chose d'important. C'est une espèce de... Et puis, c'est aussi un lien quand on tente des choses un peu complexes. L'avantage du comique, c'est que ça reste... On peut aller dans l'abstrait avec le comique, parce qu'on garde un lien avec... C'est comme l'horreur. Ça garde un lien avec les émotions directes du spectateur.
J'ai consulté des professeurs, quand mon oncle a été déclaré, j'ai hérité de la vieille chute, et on a pré, quand mon oncle a été déclaré, j'ai réuni l'équipe, et on a préparé l'acte 3. J'ai hérité de la vieille, et on a préparé l'acte 3. Mais, quand mon oncle a été déclaré juridiquement irresponsable, j'ai hérité de la vieille chemise en caillon. J'ai consulté des professeurs, quand mon oncle a été déclaré, j'ai consulté des professeurs,
Marc Bernman. Ça, c'est un extrait de L'autre continent de Sébastien Grosset. Alors, c'est pas parce qu'on est dans une répétition générale que les mots n'arrivent pas à sortir tout de même. On dirait que le comédien, l'appareil s'est bloqué. Racontez-nous ça.
Non. Alors, cette voix qui s'arrête, reprend, s'arrête. En fait, c'est un piano qui parle. Oui. Sur scène, il y a deux pianos programmés qui permettent de diffuser des sons de piano, évidemment, mais également des sons et des mots. Et les musiciens jouent une note et, par exemple, au lieu d'entendre un do dièse, eh bien, vous entendrez une syllabe ou une réplique complète de Tchekhov ou une partie d'une réplique. Si bien que les comédiens se retrouvent à dialoguer avec les pianos. Mais surtout, au fil du spectacle, les sources de la parole deviennent de plus en plus insaisissables. Est-ce que c'est un comédien qui parle? Est-ce que c'est un piano? Et à la fin, vous ressortez totalement désorienté. Ce d'autant plus que le propos textuel et musical a été explosé au fil du spectacle. Et en une heure et demie, on passe progressivement de ça,
qu'on entend au début, c'est vrai qu'il fait assez beau aujourd'hui,
à ça.
J'ai pensé,
et là, on est vraiment dans l'évolution du spectacle. Et ça se fait de façon très progressive. Et on entend la différence.
Laissons un petit peu le son rouler. Quelque chose d'un petit peu sériel quand même, hein, dans cette musique, Marc Bernman.
Ah, absolument.
Somptueux d'ailleurs, quelque chose d'assez...
Oui, et puis complètement angoissant. À la fin, ce personnage, ce neveu qui n'a pas réussi à écrire le quatrième acte qui lui a été légué par ses autres oncles, eh bien, se retrouve seul à discuter avec un piano qui émet ces sonorités-là. C'est magnifique.
Un gouffre créatif.
C'est extrêmement beau.